C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ mon corps, mon cœur, mon esprit, tout mon être. Que Dieu accepte ton offrande, que Dieu accepte mon offrande et que dans nos vies, sa parole puisse nous transformer. Nous accueillons le serviteur de Dieu, le révérend Banyene. Nous pouvons l'encourager par nos acclamations.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour cet après-midi. Sans tarder, je remercie d'abord l'Éternel Dieu qui nous donne cette opportunité. Je dois aussi remercier les dirigeants de l'Église, les collègues pasteurs pour m'avoir invité. Merci pour cette collaboration. Juste, je dois me présenter. Moi, c'est pasteur Banyene Boulere. Je suis pasteur responsable de la 8e CEPAC, La Source. Nous ne sommes pas loin de vous et nous sommes très heureux d'être avec vous. Le frère Merveille et son épouse nous ont déjà visités à travers leur stage quand ils étaient chez nous. Et je suis heureux que vous soyez là et que je sois accueilli aussi parmi vous. Amen. Alors, dans les quelques minutes, je vais vous partager un thème qui nous a été proposé, servir Dieu au-delà de l'ordinaire pour plus de résultats. Servir Dieu au-delà de l'ordinaire pour plus de résultats. Je vais parler de ce thème en 5 points. Ça va m'aider à me résumer un peu. Je vais donner l'objectif selon la vision de l'Église. Deuxième point, je vais essayer de donner la compréhension des concepts au-delà de l'ordinaire, mais aussi de servir. Troisièmement, je vais développer un peu les textes principaux que nous allons lire, pas tous les versets, bien sûr. Et quatrièmement, nous allons donner quelques secrets qui peuvent rendre notre service extraordinaire à la lumière de personnalité ou des vaillants serviteurs dans la Bible. Et enfin, cinquième point, je vais donner quelques avantages de servir Dieu au-delà de l'ordinaire. Alléluia! Servir Dieu au-delà de l'ordinaire pour plus de résultats. Le texte principal, c'est Jean chapitre 5, chapitre 15, verset 5 et le verset 16. Nous pouvons lire ces deux versets. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je saute au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. Servir Dieu au-delà de l'ordinaire pour plus de résultats. L'objectif nous proposé, c'est appeler à plus de consécration à la prière. Dieu veut nous voir dans la prière. Dieu nous invite à prier, à être des hommes et des femmes de prière. Ça ne fait pas la honte qu'on soit appelé homme ou femme de prière. Dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, c'est une grâce d'être compté parmi les intercesseurs, d'être compté parmi les personnes qui peuvent prier, qui peuvent avoir du temps dans la présence de Dieu. Mais aussi, l'objectif est de nous amener à demeurer dans la direction du Saint-Esprit à chaque fois que nous voulons agir. Nous avons des sentiments et à chaque décision, souvent la chair nous pousse à prendre des décisions et quelquefois qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais par cet enseignement, Dieu veut nous voir aussi rester fidèles à l'action du Saint-Esprit et à l'orientation du Saint-Esprit. Alors, lorsque nous parlons servir au-delà de l'ordinaire, comprenez que ça nécessite la discipline dans la vie. J'aime l'apôtre Paul lorsqu'il lui disait « Je traite durement mon corps. » C'est puisqu'il avait un objectif. Alors, prier, consacrer sa vie à la prière, ça demande une discipline, puisque le corps a ses caprices. Mais nous devons nous soumettre à la discipline guidée par le Saint-Esprit. Mais aussi, ça nécessite des sacrifices. Il y a des temps où on doit sacrifier certaines choses dans sa vie juste pour demeurer et être permanent dans la présence de Dieu le Père. Deuxièmement, c'est la compréhension des concepts. Et là, j'ai tiré seulement deux concepts dans le thème ou dans le titre. Que comprenons-nous par l'expression « au-delà de l'ordinaire » C'est facile peut-être. En termes habituels, on peut dire « c'est l'extraordinaire ». L'extraordinaire, oui. Servir, c'est facile aussi. C'est s'acquitter d'une obligation quelconque ou quelquefois on peut dire « faire une tâche envers » une personne ou une institution ou l'État, on doit obéir lorsqu'on doit servir. Mais aussi on peut dire, servir c'est aider. On peut aider une personne, on peut aider d'autres personnes. Et lorsque nous disons servir Dieu au-delà de l'ordinaire, on peut comprendre peut-être se servir Dieu avec toute son énergie. Et là, je ne doute pas, lorsque vous voulez servir Dieu au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire il faut que toute ton énergie soit rassemblée pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 10, le verset 12, lorsqu'on pose la question à Israël, « Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu ?» Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, et ce que j'aime à la fin, et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire, servir Dieu au-delà de l'ordinaire, c'est servir Dieu de tout son cœur. Il y a des gens qui servent Dieu, mais les cœurs sont encore ailleurs. Il y a des gens qui sont à l'église, mais c'est juste le corps qui est à l'église physique. Mais tout son cœur est ailleurs. Ce n'est pas ça, servir au-delà. Vous savez, dans Jérémie, chapitre 48, le verset 10, la Bible dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Lorsque vous entrez dans les dictionnaires, vous trouvez ce terme extraordinaire dans le sens de parler des choses, d'une chose qui n'est pas selon l'ordinaire, selon l'ordre commun, qui est au-dessus de l'ordinaire. Ou en d'autres termes, c'est une chose qui étonne, qui fait étonner, qui suscite la surprise. On se pose la question. On se dit, ça c'est rare, ça c'est rare, ça c'est extraordinaire, ça c'est extraordinaire. Dans la Bible, lorsque nous lisons des passages, par exemple, de Daniel, chapitre 2, au verset 31, le roi avait fabriqué une grande statue, et on parle que cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire, c'est-à-dire une statue qui était rare, qui était différente des autres. Alors donc, je me plonge quelque part dans mon enseignement en parlant de l'extraordinaire. Je vais parler d'une rareté. Et quand je dois parler des serviteurs extraordinaires que nous voulons avoir, ce sont des serviteurs qui doivent être différents de ceux de cette génération. Donc cette génération connaît une crise. Alors, Dieu veut avoir des serviteurs au-delà de l'ordinaire. Des serviteurs qui ne sont pas là seulement pour copier, imiter les antivaleurs, mais des serviteurs au modèle de Noé. Noé, qui était aussi un homme comme nous, dans un environnement souillé, mais il s'est distingué. Alléluia. C'est ça. Et c'est ce que Dieu veut dans notre vie. La Bible, lorsqu'on parle toujours d'extraordinaire, c'est dans le sens où Jésus aussi parlait, chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis. C'est ça. Il y a donc une loi, il y a quelque chose que tout le monde peut faire, mais nous, on nous appelle à faire autrement. Amen. Et c'est là où on va dire, par exemple, Matthieu 5, 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si moi, Muhunde, je dois dire, non, je suis gentil, mais je ne fais que saluer les Bahunde. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Même les païens le font dans leur mutualité. Mais je serai différent quand moi, Muhunde, je vais aimer un ande, un chi. Là, ça devient quelque chose de plus. De plus. Donc, Dieu veut nous voir faire des choses au-delà de ce que les autres font. De ce que les autres font. Et là, je vois une dame, par exemple, Ruth, chapitre 1, dans ce passage du livre de Ruth, une femme dans la Bible qu'on peut appeler extraordinaire. Une femme extraordinaire, vous connaissez son histoire, elle s'attacha à sa belle-mère, malgré les risques qui sont devant elle, mais elle a dit, je m'attache. C'est-à-dire, on devient extraordinaire lorsqu'on est prêt à accepter les risques, lorsqu'on peut courir des risques pour mieux faire, pour mieux faire. Dans la vie aujourd'hui rare de nos compatriotes sont prêts à prendre des risques. Donc Jésus voulait montrer toujours qu'il faut une différence de ceux qui sont en Jésus et les autres. C'est là où il va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Voilà. Donc, cet enseignement nous interpelle. Et la grande question qu'on doit se poser à la fin de cet enseignement, sommes-nous différents des autres? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Les autres marchent, les autres mangent, les autres prennent leur boisson, mais qu'est-ce qui nous distingue des autres? Nous serons différents des autres quand nous serons autour d'une table, on nous présente à manger, et là, peut-être je dirais, ça nous ne prenons pas différemment des autres. Et les autres vont s'étonner, ils vont se dire, mais toi tu es qui? Un jeune comme toi, de cette génération, Uyu Magani Ukwabu. C'est ce qu'on veut voir dans notre vie, quelque chose dans notre vie. Quand les chefs de nos services peuvent venir dans nos maisons et ils savent que nous sommes chrétiens, différents d'eux, et ils peuvent trouver des choses qu'ils nous ont obligés de chercher, mais nous disons, mais chez moi, ça tu ne peux pas voir. Et ça, il va dire, mais toi tu es quel type de gens? Tu ne sais pas que tu peux perdre le travail. Oui, je sais, je peux perdre ce travail, mais je suis différent. Alléluia. Un immeuble peut être différent, peut être extraordinaire, suite à sa taille. Lorsqu'on voit sa taille, on peut dire non, cet immeuble est différent des autres. Cet immeuble est différent des autres. Voilà, mes bien-aimés, ce que je peux dire dans ce sens, faire au-delà des autres, c'est ce que je peux appeler en d'autres termes exceller. Exceller. C'est-à-dire, Dieu veut nous voir exceller dans notre vie spirituelle. Exceller à tous égards. Exceller. Je suis heureux de voir le préfet ici. Lui, il sait comment il cote les gens. Mais dans leur cote, ils ont des excellents. Mais ils ne donnent pas l'excellent à tout le monde. Il n'y a que personnes qui se sont distinguées. Un professeur qui s'est distingué. Un élève qui s'est distingué. Qui peut mériter l'excellent. Mais Dieu veut nous voir aussi dans l'excellence. Quittons l'état d'ordinaire. Quittons l'état de médiocrité pour monter à un niveau supérieur, à un niveau où les autres peuvent dire ils sont différents de nous. Et c'est pourquoi on avait pointé les chrétiens, on avait dit, mais ces gens sont des chrétiens. Ils sont différents de nous. Ils sont différents de nous. Que le monde puisse nous appeler, nous sommes différents d'eux. Et non pas nous à publier, je suis chrétien, je suis bishop, je suis qui? Que les autres témoignent ce qu'ils ont découvert en nous. Amen. Troisièmement, je vais parler un peu de ce texte que nous avons lu. Puisqu'on peut être excellent lorsqu'on est enraciné en Jésus-Christ. Au-delà de l'ordinaire, on peut être excellent juste puisqu'on est enraciné en Jésus-Christ. Et le texte biblique, la Bible et le texte que nous avons lu illustrent trois images. Le vrai cep qui est Jésus, le vigneron qui est Dieu le Père et le sarment. Et je peux dire, c'est nous, membres de l'Église ou nous chrétiens. Et ça, vous trouvez, le texte lui-même donne l'essence dans Jean 15, au verset 1, il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Alors, je sais que vous avez ce texte et on n'a pas beaucoup de temps d'y entrer, mais donnez-moi juste les quelques minutes de dire, de donner quelques éléments qui peuvent nous attacher au cep. Puisque si vous lisez tous les textes, on montre combien de fois le sarment qui n'est pas attaché au cep sera jeté, sera brûlé et n'aura aucun sens. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à rester attachés au vrai cep? Premièrement, une vie de sanctification. Lorsque vous lisez, on est toujours dans ce texte de Jean chapitre 15, au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et la suite continue pour montrer combien de fois là, il y a la connexion. Le sarment, d'autres termes, les branches. Mettez-vous en tête un arbre, le tronc qui est Jésus, les branches qui sont maintenant les chrétiens. Et c'est vrai, nous sommes le corps du Christ, nous sommes les membres du corps du Christ. Alors, pour être attaché au corps du Christ, il faut la sanctification. Une vie sans la sanctification ne résistera pas au corps du Christ. Il n'y a que la vie de sanctification qui nous colle au corps du Christ, au vrai cep. Deuxièmement, pour demeurer, être attaché au corps du Christ, attaché au vrai cep, il nous faut une vie de consécration. Consacrer, c'est quoi? Le verbe consacrer peut signifier sanctifié, parce que je me répète, préparé, dédié, ainsi de suite. Mais il y a encore quelque chose de plus dans ce sens quand on parle de consacré. Consacré peut signifier encore être séparé. Nous pouvons être dans un groupe ensemble, tout le monde, dans une foule, mais je me consacre ou on me fait consacrer, c'est-à-dire on me retire, on me sépare de ce groupe, on me sépare de ce groupe. Quelquefois, quand nous parlons de consécration des pasteurs, consécration des serviteurs, en d'autres termes, on veut dire on vous tire d'une foule et on met quelque part. Mais ce que j'aime encore, plus qu'être séparé, c'est lorsque ça donne le sens encore, si vous entrez dans les vrais termes originaux, c'est être mis à part, être mis à part. C'est-à-dire, nous pouvons être dans un groupe, mais on vous tire et on vous met à part. La question maintenant, on vous met à part pourquoi? Mis à part pourquoi? Pour quelque chose. Pour quelque chose. Et les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qu'on consacre, on les met à part pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu. Consacré n'est pas seulement aux hommes, mais si vous entrez dans l'Ancien Testament, on tenait beaucoup, même les baffles qui sont à l'église, même la chair, même une fleur qui est arrivée à l'église, qu'on a offert, cette fleur est déjà mise à part. On ne peut plus la gérer comme on gère la fleur de sa maison. Alléluia. Alors, lorsqu'on est mis à part, on doit savoir que on devient maintenant un instrument d'une autre personne. On ne se gère plus. On est géré par une autre personne. Et dans le sens propre de notre enseignement, lorsque nous sommes mis à part, nous ne nous appartenons plus, mais nous devenons maintenant une richesse de Dieu, une banque de Dieu qu'il peut gérer comme il veut. Qu'il peut gérer comme il veut. Alors, troisièmement, ce qui nous aide à nous attacher aussi au vrai cèpe, c'est une vie d'intimité avec notre Maître, Jésus-Christ. Dans la vie, vous voulez rester attaché à Jésus-Christ, ayez un peu de temps, pour ne pas parler beaucoup de temps, personnellement, avec le Maître. Et c'est ce que j'appelle une vie de prière. Vous voulez être attaché toujours au vrai cèpe, ayez aussi une vie de prière. Une vie de prière, c'est comme on est ensemble, c'est une bonne chose. Mais encore, il faut avoir un moment personnel que j'appelle une vie d'intimité avec son Seigneur. Dans des mariages, les mariés peuvent être dans des foules, dans des fêtes, avec d'autres couples. Il y a une façon, il y a un degré de communication. Mais plus on s'éloigne des autres et on reste seul, il y a encore une autre dimension des amoureux. Et de la même chose, nous sommes à l'église, il y a un degré, une dimension d'être connecté à Dieu. Mais il faut encore avoir un moment de mise à part où vous pouvez encore être plus avec votre Seigneur dans la vie. Jésus-Christ lui-même le faisait, et pourtant il était fils de Dieu, lui-même est Dieu. Dans Matthieu 6, 5 à 18, il donne même la formule de prier. Lorsqu'on doit prier, on ne doit pas le faire comme des hypocrites qui aiment faire des publications. Donc, quand on fait cette vie de prière, on doit le faire différemment de ce que la génération d'aujourd'hui les fait. Aujourd'hui, je peux aller, c'est le cas Koumoulima par exemple, et nous écoutons parler de ça. Vous voyez la personne concentrée dans la prière, mais il prend des Facebook et il jette ça sur WhatsApp. C'est quelle vie d'intimité ça? C'est pour publier, je suis l'homme des prières.
Des publications, nous les faisons toujours. Je suis l'homme, la personne des miracles. Venez tous, vous serez sauvés, vous serez guéris.
Ah, j'ai toujours eu pitié de ces gens.
Puisqu'à ce moment-là, on se pose la question, qui fait les miracles entre Dieu et l'homme? Est-ce qu'on commande à Dieu de les faire quand on veut? Est-ce que Dieu n'est plus souverain? Alors, et beaucoup de chrétiens sont emballés dans ça. Et pourtant, les miracles, vous pouvez les vivre dans votre vie d'intimité avec votre Dieu. Donc, la génération d'aujourd'hui, elle est en problème, en crise, mais Dieu veut, à travers cet enseignement, avoir une nouvelle génération qui peut agir différemment. Différemment. Jésus, quand il montait, il passait toute une nuit dans la prière. Et quand il revenait, il pouvait prendre de grandes décisions. Dans Luc chapitre 6, au verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Ceci nous appelle, même lorsque nous prenons les décisions, nous devons les faire différemment des autres. Les autres peuvent faire des réunions, peuvent passer des nuits blanches en train de jouer la politique, mais nous, la Bible nous demande, faisons comme Jésus dans la prière, et après la prière, nous pouvons maintenant parler et nous sommes rassurés que nous faisons des choses dans la volonté de notre Père. Mais aussi, nous voulons rester attachés à notre Maître. Cet attachement va aussi s'expliquer dans la fidélité que nous vivons envers notre Maître. Vous êtes infidèle, on vous coupe et vous ne faites pas partie du corps du Christ. Donc, la fidélité envers le Maître, on doit garder une bonne relation, on doit demeurer en Jésus-Christ. C'est là où j'aime dans Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous voulez être honoré par le Père, demeurez attaché au Maître, marchez avec lui aussi, au modèle de Jésus-Christ. Alors, je donne quelques éléments qui peuvent nous détacher du vrai cèpe. Et là, ce sont des éléments qui détachent plusieurs serviteurs de leur maître. C'est le péché. J'ai résumé quatre. Vous savez, communément, les gens avaient, dans des églises, les gens disent il y a des grands péchés, des petits péchés. J'étais tenté de dire quatre grands péchés des serviteurs. Mais cette expression ne tient pas, puisque devant Dieu, il n'y a pas petit et grand. Péché, c'est égal péché. C'est un péché que d'autres prédicateurs, grands prédicateurs, ont déjà donné même le nom de POSA. C'est une abréviation de quatre lettres, POSA. P-O-S-A. J'avais dessiné ça, mais comme ça ne tient pas là-bas. POSA. Ce sont quatre péchés, je ne dis pas grand péché hein, ou petit péché. Ne prenez pas cette expression chez moi. Mais ces quatre péchés sont connus par des hommes de Dieu qui ont l'expérience dans l'histoire de l'Église, qui ont bouleversé plusieurs vaillants serviteurs de Dieu. Il peut être un homme de prière, une femme de prière, un grand prédicateur, mais devant ce péché le détache du corps de Christ. Alors, on parle du tombeau des grands serviteurs de Dieu. Le tombeau du grand Kaburi Abatumi Shamu. Là où beaucoup n'arrivent pas à dépasser. Ils peuvent être bouillants, mais devant ça, le premier, c'est paix, le pouvoir. Nombreux sont humbles, spirituels, lorsqu'ils n'ont pas encore goûté le pouvoir. Alors, vous voulez savoir les degrés d'une personne spirituelle, donnez-lui qu'il goûte un peu le pouvoir et il faut l'observer. Est-ce qu'il est toujours le même ou il a changé? Nombreux ont bien commencé, mais plus le pouvoir goûtait, ils sont tombés et ils ont été détachés au vrai cep. Et aujourd'hui, ils sont jetés. Deuxième, j'ai parlé paix, orgueil. Orgueil. Être orgueilleux, il n'est pas dit qu'il faut être riche pour être orgueilleux. Il n'est pas dit qu'il faut avoir un pouvoir. Il y a des orgueilleux, même s'il est pauvre, il est orgueilleux. Donc, c'est un virus qui est en lui. Un virus qui est en lui. L'orgueil. Dans la vie, vous voulez toujours rester attaché au cep. N'ayez pas l'orgueil dans votre vie. Troisième, j'ai parlé pour ça. P-O-S. Là, on parle du sexe. Je n'entrerai pas beaucoup, on est mixte, mais vous pouvez voir David le roi, un grand roi, qu'est-ce qu'il manquait dans sa vie? Mais à cause de Bathsheba, il a perdu beaucoup de choses devant Dieu. Et beaucoup de grands serviteurs n'arrivent pas à sauter ça. Ils sont détachés du vrai cep à cause de l'impudicité. Quatrièmement, argent. Argent. Il y a des gens qui sont gentils, humbles, spirituels, puisqu'ils n'ont pas encore touché l'argent. Dès qu'ils ont l'argent dans la poche, vous le perdez dans l'église. Alors, évitez l'esprit de Géasi dans votre vie qui risque de vous jeter et de vous faire sauter et de quitter la royauté. Mais je dois dire cinquièmement, au-delà de ces quatre que j'ai donnés, ce qui peut nous détacher aussi du vrai cep, c'est le manque d'énergie spirituelle dans notre vie. Et quand je parle d'énergie spirituelle dans notre vie, je me réfère à Josué chapitre 1, versets 7 et 8, lorsque la Bible dit « Fortifie-toi, prends courage ». Mais là en bas, il montre que la source de l'énergie viendra de la parole, de la loi. Donc, il faut méditer la parole du Seigneur. Quatrièmement, avant que je termine avec le dernier, quelques secrets pour rendre notre service extraordinaire aux yeux de Dieu. Ça, la lumière des serviteurs dans la Bible. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8, verset 21, la Bible montre que nous ne recherchons pas seulement les biens devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Dans la vie, il ne faut jamais dire seulement « je dois plaire à Dieu, même si les autres souffrent, même si l'autre sont choqués de moi, l'essentiel, je dois plaire à Dieu. » Non, il ne faut pas être un intercesseur de tel modèle. La Bible nous dit « nous devons rechercher les biens devant Dieu et devant les hommes. » Je disais quelque chose qui peut rendre notre service extraordinaire, c'est juste voir les modèles d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, Abraham reçoit l'appel de Dieu. Première chose, soyez attentifs à la voix de Dieu. Comment Dieu parle? C'est une question que les gens se posent. Et aujourd'hui, tout le monde peut venir chez toi, Dieu m'a dit. Il faut faire attention avec les Dieu m'a dit. Est-ce qu'il a dit? Ou quelqu'un peut venir aussi avec ce sentiment, Dieu a dit. Une dame ici à Goma, que je ne cite pas son nom, un jour était venue chez moi, un matin, 6 heures du matin. Coco, on ouvre. Si on est surpris de voir une personne, une dame est très tôt comme ça. Oh, Dieu m'envoie ici. Dieu m'envoie, pasteur. Vous devez donner la dîme. Et la dîme, c'est moi qui dois l'amener à l'église. Elle, hein? Encore une femme, maman. Or, chez nous, à la CEPAC, on n'a pas encore donné aux femmes d'être pasteur. Maintenant, une femme vient le matin, chez moi comme pasteur, berger, elle me dit, Dieu a dit. Tu dois donner la dîme, et la dîme que tu donnes, c'est à moi d'apporter ça à l'église. J'ai dit, maman, qui t'a envoyé? Oh, Dieu m'a envoyé. Est-ce que Dieu peut passer chez toi, ça passer chez moi, maman? Tu sais que moi, je suis le pasteur. Et ton message, je ne passe pas. Je ne sens rien à moi. Je donne cet exemple, pourquoi? Si les gens d'aujourd'hui peuvent avoir le courage de venir chez un pasteur et dire « Dieu m'a dit » et sans crainte, alors combien de chrétiens ont déjà souffert d'une telle dame? J'avais demandé à son église locale qu'on lui retire sa carte de baptême, puisqu'elle brandissait ça chaque fois pour montrer qu'elle est de la CEPAC. Donc, nous devons être attentifs, mais attention avec les discours de plusieurs personnes. Je n'ai pas refusé que Dieu peut parler à travers vous pour mon message. C'est biblique. C'est biblique. Mais ayons un degré aussi à notre niveau d'examiner, de discerner. Soyons donc attentifs comme Abraham. Deuxième élément, chez Abraham, c'est l'obéissance. Dieu veut avoir des personnes obéissantes. Abraham, toujours dans Genèse 12, il a reçu le message de Dieu, « Va-t'en de ton pays. » Et après, au verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham était obéissant. Et dans notre vie, ayons l'écoute de Dieu, de la voix de Dieu, soyons obéissants à la voix de Dieu, et cela nous pousse à sceller une alliance avec Dieu. Vous savez, Dieu peut vous parler à travers les songes, Dieu peut vous parler à travers des rêves, Dieu peut vous parler à travers la parole, Dieu peut vous parler à travers une personne, à travers une prédication, un enseignement. Mais il faut saisir, être à mesure de saisir ce que Dieu veut dire. Mais aussi une autre chose, dans la vie, vous voulez rendre votre ministère extraordinaire, il faut savoir honorer les autres. Quand je dis honorer les autres, c'est à l'image de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, cet homme que j'admire toujours, il était envoyé parler, annoncer l'arrivée du Messie. Mais cet homme extraordinaire, lorsqu'on le voit et lorsqu'il parle, on l'admire, mais lui-même va dire « Non, il ne faut pas m'admirer. Je ne suis pas digne de délier la courroie même de sa sandale. » Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Combien de cette génération peuvent faire ça? Nous, chez nous, à la CEPAC, les pentecôtistes, vous, chez vous, les baptistes, au moins, il y a un peu de l'ordre encore. Vous pouvez avoir des jeunes qui prêchent, qui parlent la langue, et directement, ils se disent, non, je suis au-dessus du pasteur responsable. Mais Jean-Baptiste, on l'admire, mais lui va dire non. Il faut que cet homme croisse et que moi je diminue. La simplicité dans la vie. Vous ne pouvez pas rendre service extraordinairement sans cette simplicité. C'est ce que la génération d'aujourd'hui n'arrive pas à faire. Nous cherchons à réduire les autres à néant. Nous cherchons à réduire les autres à le rendre ridicule. Mais dans la vie, il faut toujours savoir élever les autres. Un écrivain disait, faire briller les autres ne réduit pas notre éclat. Faire briller les autres ne réduit pas notre éclat. Au contraire, cela amplifie la lumière que nous sommes à travers la multiplication des réussites autour de nous comme un chandelier. Donc, il ne faut pas avoir peur d'élever les autres. Non. Au contraire,
ça vous aide aussi à vous mettre au-dessus encore. Laissez-moi terminer alors avec quelques avantages de rendre ou de servir Dieu au-delà de l'ordinaire. Pierre avait posé la question à Jésus. Jésus, depuis que nous sommes avec toi, nous circulons, nous marchons, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos chats. Ça vraiment, c'est de servir extra. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? On a toujours pensé que Pierre était charnel, mais il nous a aidés aussi. Ça serait la même question. De nous pasteurs, de nous chantres, de nous évangélistes, de nous diacres, de nous laïcs. Seigneur, nous te servons. Mais quoi maintenant? Qu'est-ce que nous allons gagner? J'aime la réponse de Jésus, puisqu'il montre quand même qu'il y a à gagner. On recevra les centuples et on héritera la vie éternelle. Beaucoup aiment la version de Matthieu. Ils n'aiment pas la partie de Marc, puisque Marc, chapitre 10, verset 3, 30, lui ajoute « avec des persécutions ». Un prédicateur avait dit que est-ce que cet homme avait bien écouté Jésus ou bien il voulait toujours nous faire des martyrs. Mais la parole est écrite. La parole est écrite. Donc, nous devons savoir que ce que nous faisons, ce n'est pas pour rien. Le fait que nous nous consacrons dans la prière, il y aura toujours des résultats. J'ai toujours dit aux intercesseurs et aux chrétiens de notre Église, la prière paye mieux. Il n'y a pas de temps perdu dans une prière. Même si tu somnoles un peu, mais tu es là, ça payera un jour. La prière paye mieux. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler dans la vie, mais que la prière peut résoudre. On peut être riche, on peut être intelligent, on peut avoir la bonne santé, mais dans la vie, il peut y avoir des questions qui vous arrivent, des blocages dans la vie, des situations impossibles que seule la prière peut débloquer. Amen. Amen. Seule la prière peut débloquer. Mais aussi, la vie consacrée à Jésus-Christ nous fait honorer auprès du Père. C'est le passage de Jean 12, 26 que nous avons lu. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et lorsque le Père honore quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire la publicité. C'est juste une grâce qu'il vous donne. Puisque lorsque Dieu a voulu honorer Esther, pour qu'elle soit mariée par le roi, juste la Bible dit, Esther eut la faveur, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Esther, une étrangère d'abord. Si on pouvait aller dans les critères, elle n'était pas éligible. Comme on dit aujourd'hui, Congolais du père et de mère. Donc elle n'était pas dans ça. Mais la main de Dieu était sur elle. Était sur elle. Lorsque la grâce de Dieu arrive, on n'explique pas. On n'explique pas. Des choses qui ont raté toute la vie, on peut les récupérer dans une minute, juste puisque la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Elle qui ne savait pas même faire les défilés, elle a fait des entraînements, mais on dirait que c'était la première fois de voir de tels spectacles. Mais devant la grâce de Dieu, même une marche désordonnée, Dieu peut toujours arranger ça. C'est là où maintenant le roi a trouvé que non, c'est elle qui marche bien. C'est elle qui marche bien. Mes bien-aimés, je termine par là. Ne nous fatiguons pas de rester dans la présence de Dieu. Ne nous décourageons pas tant que nous sommes dans la présence de Dieu. Ça peut prendre du temps,
Ça peut retarder, mais j'aime lorsqu'on dit « attends toujours dans la présence de Dieu ». Que Dieu nous bénisse et je vous remercie. Amen. Amen.